vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions, votre programme hebdomadaire qui explore les différentes croyances et le vivre ensemble. Ce soir, nous nous intéressons à une figure emblématique du monde musulman et de la philanthropie, Aga Khan IV, récemment décédé à l'âge de 88 ans, chef spirituel des Ismaéliens Nizarites. Il a consacré sa vie à conjuguer engagement religieux et développement humain à travers le réseau Aga Khan de développement, son héritage en Afrique, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement économique, est considérable. Mais qui sont exactement les Ismaéliens Nizarites? Quelle est leur philosophie et comment l'œuvre de Aga Khan continue telle d'influencer des millions de vies? Pour en parler, nous recevons le professeur Bakary Sambe, président de Timbuktu Institute. Professeur Bakary, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue.
Merci de votre invitation.
Et bienvenue dans le dialogue des religions.
Merci.
Voilà, vous avez travaillé pour Aga Khan. Ma première question, vous êtes également spécialiste des religions, n'est-ce pas? Qui sont les Ismaéliens Nizarites et quelle est leur place au sein de l'islam chiite?
Oui, comme vous le savez, les Ismaéliens, c'est une des branches des chiites qui sont assez nombreuses, ces branches. C'est un courant chiite qui apparaît alors au 8e siècle et ses membres sont appelés donc Ismaéliens. Donc cette dénomination, en fait, vient du fait d'Ismaël ben Jaafar, qui est le nom du 7e imam du chiisme. Et c'est la raison pour laquelle on parle aussi d'Ismaéliens septimains, parce que dans les chiites, il y a aussi des chiites duodécimains et les septimains. Donc l'ismaélisme, si vous voulez, n'est pas spécifiquement persan ou arabe ou indien. C'est une longue histoire donc assez complexe avec un courant qui se subdivise même avec des branches. Et ces adeptes se distinguent des ismaéliens comme des ismaéliens, en fait descendants d'Ismaël, qui est le patriarche biblique, tenu aussi pour un prophète par les musulmans, etc. Donc vous voyez, c'est une longue tradition qui en même temps s'inscrit dans la tradition de l'islam, mais plonge ses racines véritablement dans les religions de manière universelle, d'où le côté mystique, le côté philosophique qui entoure cette école-là.
Quelle est la philosophie qui guide cette communauté dans son engagement spirituel et social?
Oui, c'est vrai que pour les Ismaéliens, en fait, l'imam est le continuateur de la prophétie. Et c'est la transmission donc de messages qui se fait par un mandat explicite de l'ancien au nouvel imam. En fait, si Ismaël a reçu ce double héritage temporel et spirituel de son père, c'est que pour eux, c'est lui et lui seul qui peut transmettre à sa progéniture. Donc l'imam légitime, c'est Mohamed, fils d'Ismaël, et non Moussa al-Kazim, comme qu'on trouve dans ce débat-là. C'est-à-dire que c'est une communauté assez mystique qui est active à la fin du 11e siècle jusqu'en 1257, c'est-à-dire un an avant la chute de l'Empire abbasside qui a duré de 750 à 1258. En fait, les Nizarites eux-mêmes donc, tirent leur nom après au sein de l'ismaélisme d'un certain Nizar ibn al-Muntazir qui était l'héritier désigné mais qui était contesté des sultans qu'on appelle al-Muntasir Billah qui était le 8e calife fatimide du 18e imam ismaélien et je pense que cette période de tumulte, de débat sur le califat et sur la succession a duré assez longtemps de 1035 à 1094. Donc c'est dans cette tradition-là que s'inscrivent les ismaéliens. Ils sont assez répandus, une communauté de 12 à 15 millions hein, de personnes à travers le monde et qui se répartissent en Asie centrale, en Afrique de l'Est, mais aussi dans la diaspora où il y a beaucoup d'hommes d'affaires influents, etc., autour de l'Aga Khan et des fondations qu'il a pu mettre en place.
Voudriez-vous nous rappeler brièvement qui était Aga Khan IV et quel rôle il a joué au sein de la communauté ismaéline Nizarite?
Oui, le prince Aga Khan IV était assez suicidaire. Il faut dire qu'il n'a pas succédé à son père, mais à son grand-père. Parce que son père, il y a eu quelques problèmes qui ont fait qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait pas prendre le califat. Alors, ce prince-là qui est à la tête de ce réseau, notamment Aga Khan Development Network, le réseau Aga Khan Development, et c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, est le 49e des imams dans la branche de l'islam chiite ismaélien, philanthrope, il a eu beaucoup à faire, notamment dans le monde musulman, avec l'éducation, la santé. Il n'avait même pas 21 ans lorsqu'il cédait à son grand-père Mohamed Shah. Et c'est son père Ali qui s'était vu écarté de la succession. Et donc le prince Karim Aga Khan, donc l'Aga Khan IV, s'était donné très tôt pour mission de développer l'œuvre déjà considérable de son grand-père, en étant un héritier investi dans une vaste partie de l'immense fortune familiale dont le montant n'a été jamais connu, mais aujourd'hui c'est une grande fondation, Aga Khan Development Network. Il y a d'autres fondations qui revendiquent pas moins de 96 000 employés dans le monde. Donc vous voyez, donc, c'était à la fois un mystique, un chef spirituel très respecté dans la communauté des Ismaéliens, et qui était leur chef spirituel, mais aussi quelqu'un de très investi, philanthrope dans l'art, dans la culture, il y avait même un prix d'architecture. Quelqu'un qui savait concilier une dimension spirituelle au regard de son rang et du statut qu'il incarnait, mais aussi une dimension, je ne dirais pas mondaine, mais en tout cas séculière, dans le sens du mécénat, avec l'investissement dans le développement, etc.
Vous l'avez dit, les Ismaéliens Nizarites forment une branche du chiisme avec une philosophie bien particulière, et cette vision influence l'engagement social et économique. Alors, quelle est la présence actuelle des Ismaéliens Nizarites en Afrique et leur relation avec les sociétés locales?
Oui, en Afrique, les Ismaéliens sont assez présents, pas en termes d'adeptes et qui sont derrière eux, etc., mais surtout en termes de présence dans le travail humanitaire, dans le mécénat, etc. Rien qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, ils sont investis dans la microfinance, dans certaines zones qui étaient difficiles d'accès, où les femmes n'accédaient pas aux finances. Mais aussi, ils sont assez présents en Afrique de l'Est, beaucoup en Tanzanie, mais aussi au Kenya, avec des établissements hospitaliers, l'éducation, les universités. Plus près de nous, cette présence était très, très importante. Il y a récemment au Mali et au Burkina, où, on rappelle, il y avait une compagnie aérienne, Air Mali, et il y a aussi l'œuvre d'Aga Khan pour restaurer le parc zoologique de Bamako, mais aussi son prix pour l'architecture qui a donné naissance à beaucoup d'initiatives, notamment Trust for Culture, qui a sponsorisé les travaux de recherche, par exemple, pour être terre-à-terre, à pouvoir mettre sur pied le produit chimique qui pourrait protéger les bâtiments à Tombouctou, à Djéné, que ça ne s'érode pas avec la pluie, etc. Donc, c'est quelqu'un qui était multidimensionnel, mais beaucoup présent dans les affaires, il faut le dire, ce qui explique la réussite économique aussi de ses adeptes, qui sont aussi présents dans le secteur minier, notamment au Burkina, mais aussi dans d'autres pays de la région.
Bakary Aga Khan IV a été un leader à la fois religieux et humanitaire. Vous avez travaillé pour lui. Comment a-t-il concilié ces deux dimensions?
Je pense que dans la philosophie ismaélienne, qui est une philosophie assez ouverte, ce qu'il faut savoir déjà, je travaille dans un de ces instituts qui était ISMC, Institute for the Study of Muslim Civilization, qui était à Londres, qui fait partie de l'université Aga Khan, et donc qui était dans les quartiers très importants de Londres, comme Tottenham Court Road ou bien Euston Road, et donc au cœur de Londres, avoir mis en place un centre d'études sur les civilisations de l'islam, et ouvert aussi à tous les cours courant de l'islam. C'est ça sa spécificité. Moi, en tant qu'Africain musulman de rite malikite, d'orientation soufie de la Tijaniya, j'ai été accueilli dans ce centre-là parce qu'il y avait une curiosité intellectuelle à pouvoir découvrir quelle était la pratique de l'islam en Afrique, quelles en étaient les dimensions, etc. Différemment de ce qu'on trouve dans d'autres pays où le wahhabisme ou le salafisme exclut le soufisme. Alors là, dans l'institut que l'Agatha avait mis en place, c'était plutôt l'ouverture avec la possibilité de mettre en synergie des chercheurs venant de tout le monde musulman. J'ai travaillé sous la direction du professeur Abdou Finali Ansari et on était sénégalais, indonésiens, algériens, du Bangladesh et tout ce monde-là apportant chacun en ce qui le concerne des éléments sur la civilisation musulmane. Et je pense que l'objectif à l'époque, c'était de montrer la diversité et le dynamisme des sociétés musulmanes dans des sociétés occidentales où c'était assez mal compris. Je crois qu'il a pu avoir cette dimension très séculière, hein, avec ses investissements, les affaires, etc., mais aussi une dimension spirituelle dans le sens de la valorisation de la culture. Il a beaucoup fait pour Tombouctou, il y a beaucoup de chercheurs comme Chamil Jepi, Solan Bachir Diagne, d'autres grands chercheurs qui ont travaillé à travers cet institut-là pour véritablement valoriser cette diversité à laquelle il tenait beaucoup.
Et comment son action a-t-elle contribué au dialogue interreligieux et à la stabilité sociale dans des pays où il est actif?
Oui, par exemple, l'Agatan était assez fréquent entre la France, la Suisse et d'autres pays. Vous savez que dernièrement, avant son décès, la fondation a été basée notamment donc au Portugal, à Lisbonne, pour montrer la dimension de son ouverture, qui voulait faire de l'islam, en tout cas dans son interprétation, dans son entendement, un pont de dialogue. C'est-à-dire que si j'emprunte un peu la métaphore, au moment où certains étaient en train de dresser des murs d'incompréhension, de conflits, des civilisations, l'Agacan a été toujours une personnalité qui a pu avoir le courage de jeter des ponts de dialogue. De sorte que, dans le chiisme ismaélien, cette ouverture-là se retrouve déjà dans la composition du personnel. C'est des gens qui viennent du monde entier, etc. La réflexion de Château, c'est quelqu'un, un amoureux de la culture, qui avait un prix d'architecture, etc. Et je crois que c'est en cela qu'il était un exemple, à mon avis, qui tranchait avec l'image qu'on donnait à l'islam comme une religion fermée, etc. L'Agacan a pu quand même, à mon avis, dans ses deux dimensions spirituelles, mais aussi dans son engagement sociétal, dans le mécénat, a montré un visage de l'islam compatible avec le monde contemporain, complètement inscrit dans la tradition ismaélienne, hein, avec toute la tradition qu'il portait sur les épaules, mais aussi complètement ouvert par rapport au monde dans lequel il vivait.
Le dialogue des religions. Eric Manilakiza, toujours avec vous au micro. Notre invité, professeur Bakary Sambé, président de Timbuktu Institute à Dakar, au Sénégal. Nous parlons de l'Agacan 4, un instrument majeur du développement sous son leadership. Nous abordons donc les projets les plus marquants en Afrique. Ne quittez pas le dialogue des religions. Vous revient dans un instant. Professeur Bakary Sambé, comment se distingue la vision du développement de l'Agacan par rapport à d'autres initiatives philanthropiques?
Oui, cette vision-là, c'est une vision ancrée dans la valorisation des dimensions endogènes de ces pays-là. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, par exemple, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali et dans une moindre mesure au Sénégal, je me rappelle, en tant que chercheur aujourd'hui, je parle beaucoup du Mali, mais je me souviens que ma première mission de recherche au Mali en 2009 était le fait d'une mission dans le cadre du réseau Agacan de développement, où je me suis rendu au Mali pour une mission assez intéressante à l'époque, où on me demandait, à l'époque où tout le monde parlait de société civile, de repérer dans la société et dans la culture malienne, dans toute sa profondeur, quels étaient les éléments essentiels qui renverraient à la notion de société civile, mais endogène, c'est-à-dire partant de la culture locale, les fédérations de chercheurs, les femmes commerçantes, les transformateurs, etc. Donc, si vous voyez, donc, ça tranche avec le modèle de développement qu'on connaissait top-down, penser ailleurs et appliquer sur le terrain, alors que ce modèle de développement, qu'on le voit aussi bien. Bon, pour l'Afghanistan, le Kazakhstan, la République turque, c'est vraiment bon, ça, ça zone un peu d'influence. Mais pour l'Afrique, en tout cas, c'était fondé sur une meilleure connaissance des cultures locales, la valorisation de ces stratégies-là. Ils savaient, en fait, dans leur manière de travailler, donner la dignité de solution aux stratégies endogènes, comme on le montre dans le développement économique au Burkina Faso, la question de la microfinance pour combattre la pauvreté, mais aussi d'autres dimensions de ce développement économique sur la question des entreprises. Vous voyez donc, c'était un ancrage dans la culture locale, un profond respect, et sans une dimension de conversion, etc., tel qu'on le voit dans certains mouvements islamiques qui arrivent avec des ONG, avec des idéologies. Mais là, c'était vraiment ce qui était mis en avant, c'est la question du développement, l'humanisme en tant que tel, dans le sens d'un mécénat ouvert, mais aussi avec des fondements purement spirituel, hein, si l'on sait la place importante de l'Aga Khan dans sa communauté, mais aussi assez ancré dans les valeurs de modernité.
Au-delà des infrastructures et des financements, quel héritage immatériel de l'Aga Khan laisse-t-il à l'Afrique et au monde musulman en général?
Je crois qu'il laissera cette idée que l'islam n'est pas quelque chose comme quelque chose figé qui ne peut pas être dans une dynamique. Je pense que son œuvre, à travers la manière dont il a pu, à travers le ISMC, le Institute for the Study of Muslim Civilization, où j'ai travaillé dans sa fondation, c'est quelque part montrer que l'islam peut être ce train de civilisation qui peut s'arrêter à chaque gare et embarquer les meilleures valeurs et continuer sa marche à la rencontre du monde. Et je crois que cela, on le voit en Afrique, avec la présence d'une organisation s'inspirant d'un cherche spirituel, mais qui n'a aucune intention prosélyte, comme au Mali, avec le soin qu'il a prêté aux monuments de Tombouctou, de Djenné notamment, mais aussi le parc zoologique de Bamako. Je pense que il laissera le souvenir de quelqu'un qui évolue avec ses moyens, avec son prestige, avec son capital symbolique, si j'ose dire, mais dans une démarche de respect et d'une stratégie ancrée dans les réalités locales, au lieu d'imprimer sa marque. Je crois que l'Aga Khan a surtout, à travers ses actions, à travers son mécénat, s'inscrire dans un dialogue perpétuel avec les cultures, les civilisations, indépendamment des cultures, indépendamment des appartenances religieuses. Si l'on sait que déjà, il y a certains courants, même au sein de l'islam, qui ne se parlent même pas, et alors que lui, au sein de son Institut pour les civilisations de l'islam, c'était un lieu presque unique où toutes les civilisations de l'islam étaient étudiées, mais aussi, pas seulement dans le sens d'une simple valorisation de l'islam en tant que culture, mais dans le sens d'un filon assez contenu qui donne la possibilité à l'islam, aux musulmans, de dialoguer avec le monde qui les entoure.
Le décès de l'Aga Khan IV marque donc une transition. Quel impact cette succession pourrait-elle avoir sur l'orientation de son réseau et sur la communauté ismaéline? Ismaélienne plutôt, oui.
Oui, je pense que c'est déjà dans la continuité et que par exemple, son fils qui lui a succédé, l'Aga Khan V, donc du nom de Rahim al-Husseini, je crois que va continuer la même œuvre, comme si l'on sait que la tradition est bien instituée. Il y a un rituel bien respecté au sein de cette communauté-là et qu'aujourd'hui, je vois mal s'effriter ce prestige-là. Au contraire, je pense qu'avec la jeunesse du nouvel Aga Khan, l'Aga Khan V, ça va impulser une nouvelle dynamique qui, à mon avis, pourra encore mieux faire connaître ce travail-là. C'est vrai que beaucoup ne se rendaient même pas compte de toutes ces actions-là. Peut-être son innovation pourrait être de connecter toutes ces diasporas ismaéliennes aujourd'hui contre au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs, avec ce qu'il a pu accomplir dans le reste du monde. Mais je crois qu'on s'inscrit bien dans une forme de continuité, si l'on sait la modernité dans laquelle a grandi le nouvel Aga Khan ou Rahim al-Husseini, qui, à mon avis, s'est bien imprégné de l'héritage de son père, mais aussi assez conscient de la mission qu'il porte sur ses épaules.
Vous venez de le souligner, son successeur, l'Aga Khan V, devra poursuivre cette œuvre, quels défis majeurs l'attendent?
Oui, le défi, c'est toujours le défi de l'héritage. On est tout le temps tiraillé entre la fidélité à la tradition et au mouvement qu'on doit impulser pour avoir une dynamique qui puisse se conjuguer, qui puisse aller avec le monde contemporain. Mais je crois que c'était déjà ce qu'on remarquait chez l'Agacan 5, c'est déjà ce qu'on remarquait chez l'Agacan 4, qui, à mon avis, était déjà ce personnage-là, familier de Genève, de Paris, des grandes capitales, se basant à Lisbonne, etc., mais qui en même temps était un centre de gravité autour duquel rayonnait une philosophie ismaélienne depuis l'Asie centrale, l'Afrique de l'Est, etc. Ce pôle d'attraction-là entre l'incarnation d'une tradition bien ancrée philosophiquement et sur le plan aussi du dogme, mais aussi d'une capacité à épouser le contour du monde moderne. Je crois que c'est déjà une marque de fabrique des Agacans, en tout cas pleinement incarnée par celui qui vient de nous quitter.
Alors, comment la communauté ismaélienne nizarite peut-elle envisager son avenir, notamment en Afrique, où elle est bien implantée, on peut le dire?
Je crois que l'Agacan, bien qu'étant un chef spirituel, donc il y avait quand même tout un prestige qui tournait autour de sa propre personnalité, mais je pense que le génie de sa démarche a été de très tôt d'institutionnaliser son action. C'est notamment avec Agacan Development Network, Agacan Trust for Culture, Agacan University et les fondations sur la santé, etc. Je pense que l'institutionnalisation de l'œuvre de l'Agacan a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, il serait difficile pour que ça ne puisse pas continuer. C'est-à-dire, quand on regarde déjà, tout était déjà fixé avec l'approche, le cadre éthique, les services de santé, la question de l'agence d'Agacan pour l'habitat, l'agence de l'Université d'Asie centrale, l'institutionnalisation du soutien économique dans le cadre du fonds Agacan pour le développement économique. Aujourd'hui, en Afrique, je crois que l'Agacan Development Network va continuer à travailler. En Afrique de l'Est, les institutions sur le plan de la santé et de l'éducation vont fonctionner. Et c'est ça, en fait, ce que je voulais dire. C'est-à-dire que non seulement c'était une personnalité forte, un leader charismatique, mais qui a su aller au-delà de sa personne et institutionnaliser son action dans le cadre de ce mécénat.
Merci à notre invité, professeur Bakary Sambé, président de Timbuktu Institute à Dakar, au Sénégal. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de ton aimable invitation et bravo pour la qualité de cette émission qu'on suit beaucoup sur le dialogue des religions.
Merci beaucoup. Voilà, l'héritage de l'Agacan 4 dépasse largement les frontières de sa communauté. Son engagement pour un développement durable et inclusif, notamment en Afrique, laisse une empreinte indélébile. Alors que son fils lui succède, la question demeure: comment cet élan humanitaire et spirituel pourra-t-il s'adapter aux défis contemporains? Merci encore une fois à notre invité, professeur Bakary Sambé, et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à VOA Afrique et au dialogue des religions. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Eric Manelakis a été avec vous au micro. Michel Clerc-Joseph assure la réalisation de cette édition. À la prochaine.
Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain,